Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce dimanche 25 octobre, une épidémie de Covid-19 dans le nord de Melbourne met fin à une annonce de restrictions prévue pour ce dimanche dans le Victoria, regain de tension entre la France et la Turquie, Richmond gagne la finale de l'AFL pour la troisième fois en 4 ans après avoir battu Geelong hier à Brisbane. Le gouvernement du Victoria a décidé d'attendre une série de résultats de tests de coronavirus avant d'assouplir les restrictions à Melbourne. Le chef du gouvernement avait prévu de faire des annonces ce dimanche matin, mais les autorités attendent toujours les résultats des tests après que 7 nouveaux cas aient été détectés. Daniel Andrews déclare qu'il veut attendre que les données soient disponibles pour l'épidémie de coronavirus de la banlieue nord de Melbourne avant d'assouplir d'autres restrictions dans la ville.
This is not anything other than a cautious pause to wait to get that important information, to get the results of those tests, just to rule out whether there's more virus there than we think. Ultimately, if we can link these cases together, if we can link different outbreaks, then we have confidence that we have contained it and we can move forward.
Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, annonce que l'Australie entre dans une période d'espoir après une année difficile en raison de la pandémie de coronavirus. À l'échelle nationale, il y a 27 000 cas de COVID-19 et 905 décès qui ont été enregistrés, alors que l'attention se tourne vers une réouverture à la Noël. Greg Hunt déclare qu'aucune vie n'a été perdue à cause du COVID-19 au cours des dernières 24 heures et il avertit que le nombre de personnes atteintes du virus dans le monde continue d'augmenter.
Outside of Australia, the world is facing enormous challenges. Inside of Australia, the bubble that we've created, the work of our medical professionals, the work of our community, the work of all Australians is something which should give us an immense sense of hope. We can do this. We can continue to work our way through this.
Le ministre fédéral de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie suggère qu'un vaccin contre le COVID-19 pourrait prendre plus de temps à développer s'il n'est pas à base de protéines. Le gouvernement fédéral indique que bien qu'une entreprise de biotechnologie ait déjà produit des vaccins à base de protéines, il reste encore beaucoup de travail à faire sur d'autres. La ministre Karen Andrews a déclaré sur l'ABC que le déploiement du vaccin pourrait être plus long que prévu, mais que le travail sera effectué le plus rapidement possible.
I would hope that we would be able to do it in about the 9-month to 12-month time frame, but I think we need to be really conscious that with a vaccine there are a lot of variables in there. So we don't have the vaccine proven at this point in time. We don't know what the base for that vaccine is going to be.
En Nouvelle-Galles du Sud, il n'y a pas de nouveaux cas de COVID-19 transmis localement pour le troisième jour consécutif. 7 voyageurs de retour de l'étranger ont été testés positifs au coronavirus et sont en quarantaine dans un hôtel. En France, le Premier ministre, en déplacement à Marseille, parle de moments difficiles à venir dans la lutte contre le COVID-19 à travers toute la France. Écoutez Jean Castex.
C'est une bataille collective. Elle est dure et je ne m'en suis pas caché devant les Françaises et les Français. Et je le redis ici à Marseille, cette progression de l'épidémie n'est pas terminée. Et nous allons avoir sûrement devant nous des moments encore difficiles. Mais nous allons tous ensemble faire face autour de nos soignants. C'est vraiment, je le dis, un combat collectif, un rendez-vous quelque part avec nous-mêmes. Et je fais confiance aux Françaises et aux Français pour appliquer ces règles élémentaires et pour montrer finalement que nous sommes une nation unie, une nation solidaire face à ce virus.
48 millions de Français, soit 2/3 des Français, vivent sous le couvre-feu, comme l'explique Adrien Delgrange pour Radio France Internationale.
45 millions de Français concernés depuis cette nuit. Ce sont désormais 54 départements qui sont concernés par le couvre-feu pour lutter contre l'épidémie de Covid alors que la deuxième vague enfle. Probablement pire que la première, estime Martin Hirsch, le patron des hôpitaux parisiens. Constat partagé également sur le terrain. En région parisienne, Corinne Bergeron est la chef du service des urgences de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges.
C'est très important que la population comprenne qu'on risque d'être à une phase de rupture assez rapidement, quoi, en fait. Hein. Donc il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience que notre système de santé, il y a une phase quand même qui est assez déterminante, quoi, en fait. Donc il y a, la majorité des gens ont parfaitement compris, ils sont parfaitement responsables, quoi. Mais là, il faut vraiment que tout le monde s'y mette pour de vrai, quoi. C'est ce qui va être compliqué, en fait, par rapport à l'été. Hein. C'est que là, on va avoir la partie décompensation hivernale, plus le Covid, plus les filières de la première vague qu'on a laissé tomber. Donc non, ça va être compliqué.
En Polynésie française, le couvre-feu est en vigueur aussi. Reportage de Maruki Dori de Polynésie la Première sur RFI.
Le couvre-feu, c'est pas le reconfinement. Ce sont des restrictions de circulation pendant cette période nocturne.
Pour le haut-commissaire Dominique Saurin, la prudence et la prévention restent de mise. Avec actuellement plus de 2000 cas actifs, 300 à 400 nouveaux cas chaque jour, la situation en Polynésie est grave. Le taux d'incidence à Tahiti est même deux fois plus élevé qu'en métropole. Et en complément du couvre-feu qui sera appliqué jusqu'au 16 novembre, le sport en intérieur dans les salles closes, par exemple, sera également proscrit. Les bars seront totalement fermés et il n'y aura plus de foire expo. Par contre, le président du pays ne peut empêcher le rapatriement dans les îles des élèves internes. Et là aussi, c'est un vecteur d'inquiétude pour Édouard Fritsch.
Ça, je ne peux pas m'opposer. C'est une liberté de chacun. On leur a signalé que c'est qu'ils mettaient leur enfant en danger ou en tous les cas la famille qui les reçoit dans les archipels. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ?
Plusieurs concertations ont lieu avec les différents acteurs économiques impactés dans le but de trouver des solutions adaptées.
En Afrique, au Cameroun, au moins 6 enfants tués et 13 blessés graves dans l'attaque d'une école dans le sud-ouest du pays. Jeanne Richard, RFI.
Mais ce matin, une école privée de la ville de Kumba a été la cible d'un groupe armé. Les assaillants sont entrés dans les classes, ont tiré sur les enfants et les ont attaqués avec des machettes, selon un communiqué des Nations Unies. Dans une interview à la radio d'État, le préfet de département, Chamberlain Tuundong, a indiqué que la vie des blessés est, je cite, sérieusement menacée. Des enfants tués parce qu'ils allaient à l'école, c'est insensé. Nous ne le permettrons pas, a-t-il également déclaré dans une vidéo tournée sur les lieux du drame. Pour l'instant, pas encore de précision sur les auteurs de cette attaque, mais les soupçons se portent sur les Amba Boys, ces combattants séparatistes qui interdisent aux populations d'envoyer leurs enfants à l'école sous peine de représailles. Plusieurs sources invitent toutefois à la prudence. Il est trop tôt pour dire s'il s'agit de bandits, des Amba Boys ou d'autres miliciens, explique par exemple Ayaaya Abiné, acteur de la société civile anglophone. Le REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, demande pour sa part une enquête indépendante et appelle à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation pour mettre un terme aux violences dans la zone.
En Guinée, la commission électorale a déclaré le président sortant Alpha Condé élu au premier tour avec 59,4% des voix. Reportage de Carole Valade pour RFI.
Conakry prend ce soir des allures de ville fantôme. « Je n'ai jamais vu les routes aussi désertes », s'inquiète un conducteur de taxi-moto. De l'entrée du centre-ville jusqu'à l'aéroport, toutes les boutiques sont fermées sur l'autoroute Fidel Castro, qui pourtant traverse les quartiers réputés favorables au pouvoir. On croise à peine quelques véhicules, un ou deux militants vêtus de jaune, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Non loin de là se trouve le siège du RPG, le parti au pouvoir. L'accès y est contrôlé par des militaires. Sur l'autre axe principal de Conakry, règne un silence oppressant. La route Le Prince traverse les quartiers acquis à l'opposition. Pas âme qui vive, mais à chaque carrefour, un pick-up de l'armée de terre. Des coups de feu sporadiques au loin, des affrontements en haute banlieue. Dans le quartier de Koza, une famille en pleurs transporte un corps. Des concessions ont été par ailleurs incendiées, indique le gouvernement. Les habitants restent terrés chez eux, terrorisés et épuisés. Des affrontements ont également éclaté à Zérékoré, dans le sud du pays, ainsi qu'à Dalaba, en Moyenne-Guinée, où un responsable du RPG a tué deux personnes avant de trouver la mort.
Aux USA, à 9 jours avant l'élection présidentielle, Donald Trump a voté hier de manière anticipée en Floride. Reportage Lubna Anaki pour RFI.
I voted for a guy named Trump. J'ai voté pour un type qui s'appelle Trump, annonce le président aux journalistes à la sortie de l'urne. Donald Trump était dans une bibliothèque à Palm Beach, en Floride, pour déposer son vote anticipé, rejoignant ainsi plus de 50 millions d'Américains qui ont déjà voté, comme le permet la loi. Mais le président en a profité pour critiquer une nouvelle fois le vote par correspondance, dont il met souvent en doute la fiabilité.
Mon vote s'est bien passé, bien plus sûr que quand vous envoyez votre bulletin par courrier. Tout était parfait, très strict dans le respect des règles. Quand vous envoyez votre bulletin par la poste, vous ne pouvez pas être sûr.
Portant un masque et une cravate rose flamboyante, le président a également affirmé être confiant quant à l'issue de l'élection, même si les sondages le donnent toujours à la traîne face à Joe Biden.
Il y a beaucoup d'engouement. Je crois qu'on est très bien en Floride et qu'on s'en sort très très bien partout ailleurs.
À 10 jours du scrutin, le président intensifie ses meeting. Cet après-midi, il se rend dans 3 États différents, la Caroline du Nord, l'Ohio et le Wisconsin.
En Pologne, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'interdiction presque totale de l'avortement dans le pays. Reportage Bakatoglu pour RFI, Sarah Bakatoglu.
Deux jours après la décision du tribunal constitutionnel, Christina Kapura est toujours sous le choc. La directrice de la Fédération pour les femmes et le planning familial en Pologne ne manque pas de mots pour décrire son émotion.
Frustrée, épuisée, brisée. Je n'arrive pas à croire que cela arrive en Pologne, membre de l'Union européenne. C'est une vraie tragédie pour les femmes, en particulier celles vivant dans les villages, sans emploi et sans argent, parce que les femmes aisées, elles se débrouilleront. Mais pour les autres.
Car désormais, l'avortement est autorisé seulement à la suite d'un viol ou en cas de danger pour la vie de la femme. Une décision dont est responsable le parti au pouvoir, dénonce Monica. Cette Polonaise est venue manifester contre le gouvernement.
Ce n'est pas seulement à propos de l'avortement, c'est à cause de la manière dont le gouvernement, pendant la nuit, nous retire nos droits. C'est la manière dont ils le font, la manière dont ils nous traitent. Depuis que le parti Droit et Justice est au pouvoir, on manifeste toujours pour les mêmes choses, les droits des femmes, les LGBT et les réfugiés.
La jeune Polonaise confie songer sérieusement à quitter la Pologne, tout comme beaucoup de ses amis.
Retour en Australie avec les travaillistes qui remettent en question le manque d'action rapide du gouvernement fédéral pour créer une commission nationale de l'intégrité. Tony Burke de l'opposition fédérale souhaite un examen plus approfondi des rachats d'eau et de l'achat de terrain pour la construction de l'aéroport de l'ouest de Sydney. Il craint que le terrain d'une valeur de 3 millions de dollars ait été acheté pour un total de 30 millions de dollars, une transaction qui fait l'objet d'une enquête policière. Tony Burke a déclaré sur Sky News que le gouvernement fédéral est trop lent à réagir à la corruption et qu'un organisme national doit être mis en place.
It needs to be powerful and it needs to be independent in terms of all the intricacies of what it's able to deal with and how it chooses to operate itself.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, où il fera 27 degrés, Adélaïde 18, Melbourne 17, Hobart 15, Canberra 12, Sydney 17, Brisbane 29, Cairns 32, Darwin 33 et à Alice Springs, un maximal de 27 degrés. Un rappel des grands titres de ce 25 octobre. Une épidémie de COVID-19 dans le nord de Melbourne met fin à une annonce de restrictions prévue pour ce dimanche. Regain de tension entre la France et la Turquie. Richmond gagne la finale de l'AFL pour la troisième fois en 4 ans après avoir battu Geelong hier à Brisbane. Fin du journal et restez avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.